Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview
du jour.
Dis adieu pour m'en dévailler. Dis adieu pour m'en dévailler. Ton aide, Didier, fort bien où t'es allé. Répondez.
Dis adieu pour m'en dévailler.
Dis adieu pour m'en dévailler. Ton aide, Didier, fort bien où t'es allé.
Dis adieu pour m'en dévailler.
Moi dis adieu pour m'en dévailler, ton air Didier, faut bien où t'es allé, ton air.
Dis adieu pour m'en dévailler.
Dis adieu pour m'en dévailler, ton air Didier, faut bien où t'es allé.
Dis adieu pour m'en dévailler.
Dis adieu pour m'en dévailler, ton air Didier, faut bien où t'es allé.
Brise-Montagne était, dit-on, fils de Papa Loco le Vent. Cette filiation lui donnait, paraît-il, le pouvoir de se déplacer là où il le désirait, sans que montagne ou rivière ne puisse l'en empêcher. Certains l'avaient vu traverser la moitié du globe pour aller secourir son cousin Pierilus, acculé au carrefour de la mort par une bande de loups-garous sans maman et sans honte. On se gardait de le nommer. Et pour le désigner, on se contentait de chuchoter très vite le mot.
La personne.
Et tout un chacun comprenait. La personne, disait-on, était grand diable, comme sa mère, la grande diablesse. La terre tout entière tremblait sous ses pas. Sa voix se faisait entendre jusqu'au tréfond de l'univers. On avait intérêt à ne pas lui chercher les poux dans la barbe. Son souffle lacérait l'ennemi tout autant que son célèbre sabre d'Oma qu'il avait toujours là. La rumeur courait que sa femme Diotée avait été conçue dans le ventre maflu de Tambour Congo. Et quand les tambours Congo résonnaient sous les tonnelles du grand fort, Diotée dansait. Diotée était en transe. Tenez, la première fois que Brise-Montagne la voit, elle dansait sous les tonnelles, transfigurée, chevauchée par l'esprit d'un loi. Il la trouve belle. Il en tombe amoureux, il l'épouse. Il l'installe dans une somptueuse demeure sur la tête d'un morne. Il la couvre de cadeaux, rien n'est trop beau pour elle. Mais comme il était diablement jaloux, il lui interdit de danser. Au tout début, lorsque les tambours Congo résonnaient sous les tonnelles, eh bien, Diotée répondait à l'appel. Brise-Montagne en prenait ombrage. Il écumait de rage. Il lui barrait la route. Il lui prophétisait le pire des malheurs si elle ne s'amendait pas. Elle le devait servir, lui, Brise-Montagne, et non pas les tambours de sa société Congo. Diotée obéit ainsi à son mari. Mais Brise-Montagne n'avait pas que des amis. Un diable de son acabit en voulait à sa vie et sachant l'irrésistible amour de Dioté pour la danse, l'incommensurable jalousie de Brise-Montagne, son ennemi qui répondait au nom de...
Tiboulet
tend un piège à Dioté. Un soir, Dioté était couché tout contre Brise-Montagne lorsqu'elle entend le son métallique d'un tambour dont le rythme lui est étrange. Elle entend le lancinement de voix.
Bonjour, l'interview du jour sur Radio Diwa en 107.5 ou sinon vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, pour l'interview, concernant Mimi Barthélémy, qui avait écrit L'obèse, l'ange et le jumeau. Et pour ça, nous recevons Pascal, Linette et Anne qui viennent en parler. Bonjour.
Bonjour.
Linette, tu étais venue me voir par rapport à une lecture qui aurait lieu le 20 août.
20 août à la librairie Mosaïque, c'est un mercredi, jour de marché, c'est à 11h. Et avant, on voulait parler un petit peu de cette lecture-présentation qu'on va faire aussi avec Yves Bergeret, qui est un poète du Diwa qui a vécu en Haïti, et Laurent Berman, qui est également comme Anne, comédien et éditeur de La Vieille Grille. Pour présenter ce livre, d'abord parlons un petit peu de Mimi Barthélémy. C'était une conteuse haïtienne. Elle est née à Port-au-Prince. Elle a été éduquée à Paris. Et pour moi, Mimi, quand on dit conteuse, on pense souvent à distraction, à des contes pour enfants. Effectivement, c'était bien sûr distrayant. Et souvent très drôle, plein d'humour et d'émotion. Mais pour moi, Mimi, c'est surtout une conteuse qui est engagée. Elle avait une voix très, très grave. Et quelquefois, on disait qu'elle était... on lui demandait si elle était prêtresse vaudou. Alors, elle disait que non, que c'était son art, mais qu'elle était traversée par la gravité des choses. Et cette gravité, c'est, je pense, pour moi, en tout cas, c'est son engagement. Elle avait beaucoup milité pour la liberté, donc l'émancipation à la fois des Noirs, de toutes les populations opprimées et des femmes. Et elle-même, en arrivant en France, avait pensé qu'elle surestimait sa part blanche et elle en avait perdu la voix. Et du coup, elle avait clamé sa part noire, sémite, blanche, peut-être indienne aussi, et c'était en fait un hymne au métissage. Donc ce livre, L'obèse, l'ange et le jumeau, est un livre qu'elle a écrit qui ne ressemble pas à ce qu'elle a l'habitude d'écrire. C'est un petit peu à part. Elle avait demandé de l'aide pour ce livre et il se trouve qu'on a travaillé, Anne et moi, pendant 9 mois sans se connaître. On s'est rencontrés à un moment donné, mais moi j'avais reçu le manuscrit et Anne vous racontera comment elle a fait travailler Mimi dans son théâtre de la Vieille Grille à Paris.
Et alors, en quoi concernait cette demande d'aide justement de sa part ?
C'était justement lié à l'écriture, parce que Mimi n'était pas seulement une conteuse, c'était aussi une femme de théâtre et une musicienne, une chanteuse qui travaillait beaucoup la musique. C'était aussi une femme d'origine universitaire, elle avait fait de l'ethnologie, et elle est venue me demander de l'aide, d'abord comme femme de théâtre. Elle m'a demandé de la mettre en scène dans un des spectacles qu'elle avait écrit et qu'elle jouait avec un ami à elle, musicien, Amos Coulange, et qui était consacré au code noir, c'est-à-dire le code qui avait régi, enfin qui en 1685, à la demande de Louis XIV et de Colbert, régissait la vie des esclaves en Haïti et à Saint-Domingue. Et donc là, elle voulait justement s'écarter du domaine tant du conte traditionnel haïtien, pour lequel elle se battait beaucoup par ailleurs, que du domaine du théâtre pour écrire un roman. Et c'est là qu'elle avait eu du mal et qu'elle m'avait demandé de l'aider à rédiger, comme metteur en scène, comme auteur que je suis aussi, à retravailler. Et c'est pendant que je la mettais en scène au théâtre, dans le Code Noir, qu'elle a eu le très mauvais goût de disparaître Et donc, moi, j'ai continué le travail qu'on avait commencé toutes les deux d'abord. Et c'est quand j'ai récupéré son manuscrit que j'ai découvert qu'elle avait aussi confié son manuscrit à Linette, que je ne connaissais. Il y a un an, Linette et moi, on ne se connaissait pas du tout. C'est après la mort très brutale de Mimi, donc en fin avril 2013, que j'ai récupéré le manuscrit, le tapuscrit, les notes que Mimi avait commencé à prendre avec moi quand on a eu deux ou trois séances longues de travail, avant de revenir au théâtre, puisqu'elle devait recréer le Code Noir en avril, et de disparaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu connaissance de l'existence de Linette, et ça fait tout juste un an qu'on se connaît, qu'on a travaillé, et effectivement, la gestation a duré 9 mois.
Et voilà, et donc on va vous présenter le bébé, peut-être par une première lecture.
Anne, c'est toi qui vas lire. Tu es comédienne, c'est ça?
Oui, je suis metteur en scène et comédienne, et donc je dirige le Théâtre de la Vieille Grille à Paris, où Mimi a joué un nombre incalculable de fois, et entre autres où elle a créé le Code Noir qu'on était en train de retravailler, où elle a créé Soldat Marron, où elle a créé des spectacles pour enfants, où elle a fait de la musique. C'est-à-dire, c'est un endroit... Moi, j'ai connu Mimi, non pas par la Vieille Grille, parce qu'on se connaissait de bien avant dans des tas de festivals, mais c'était devenu pour elle l'endroit à Paris où elle pouvait se produire le plus. Voilà, c'est comme ça que ça... Mais Mimi, je la connaissais depuis 40 ans. Hein. Alors, dans son chapitre premier, elle s'inspire d'une vieille légende juive. Linette a parlé tout à l'heure de la façon dont Mimi tenait à toutes ses racines, y compris la racine juive, et elle parle, comme si chacun la connaissait d'ailleurs, elle débute, sa fiction commence avec le souvenir d'une légende talmudique. Chacun sait que, selon la légende, le nouveau-né déborde de savoir, de souvenirs, de sagesse. C'est un fardeau si lourd à porter qu'il hurle de douleur. L'ange, à ses côtés, lui pose un doigt sur les lèvres qui lui fait tout oublier. Dès lors, l'esprit vierge, il peut sourire à la vie. Pour mon malheur, comme je n'avais pas crié, l'ange, me croyant inanimé, s'était éclipsé sur la pointe des pieds. Son doigt n'avait pas frôlé mes lèvres et je n'avais rien oublié. J'étais une outre, gorgée de mémoire familiale, logée dans le tout petit corps d'un nouveau-né. Mon visage était parfaitement lisse, ma lèvre supérieure n'avait pas la petite cavité que tout un chacun possède, et sur mon menton, on ne repérait aucune fossette. Quand j'étais dans les bras de maman et que nos regards se croisaient, je lui souriais, en pensant aux jumeaux qui m'habitaient. J'étais certaine qu'elle ne se doutait pas que ce petit bébé, qui lui souriait si innocemment, avait avalé son jumeau. Mon jumeau était dans mon ventre, boule résonante de phosphore. Je n'étais pas seulement une fille, nous étions deux en un. Je n'étais pas seulement une fille, j'étais aussi le garçon qui m'habitait. À ma naissance, tapis dans mes entrailles, mon jumeau avait crié contrairement à moi. J'étais la seule à l'avoir entendu et suis la seule à l'entendre encore. Il disposait de tout le souffle que j'avais omis d'exhaler. Il avait crié, mais l'ange ne l'avait pas entendu. Avec le temps, son cri s'était amplifié et modulé pour devenir ma musique à moi. Je le trouvais plus chanceux que moi. Ma monstrueuse mémoire me pesait, tandis que la musique qu'il habitait n'était pour lui d'aucun poids. J'étais la seule des deux à avoir vu le jour, mais n'était-il pas le seul des deux à vivre la musique? Ce n'est que bien plus tard que j'ai dû me rendre à l'évidence. Celui que j'avais avalé était mon maître. Il me guiderait, je le suivrai.
Merci.
Donc ce jumeau fait apparaître un peu tous les ancêtres de Mimi avec qui on fait connaissance. Et il y a deux branches, la famille, la branche Armand et la branche Borneau. Du côté Borneau, le grand-père de Mimi était président de la République. Du côté Armand, son ancêtre était africain, était un esclave noir qui s'est rebellé. Et maintenant, on peut vous lire un autre extrait d'une apparition que le jumeau suscite. Mon jumeau me faisait parfois des blagues. Peu de temps après notre balade nocturne, j'ai entendu le rythme saccadé et frotté d'un racloir et j'ai vu Rat apparaître. Comme il ressemblait à un vieux rat, On l'appelait Rat, comme on prononce en créole. Parle-moi de Sédouane, Rat.
Sédouane était arrivé chez vous tout petit, comme reste avec. Selon la coutume, les enfants de la campagne confiés aux gens de la ville vivaient chez ceux qui les accueillaient et la plupart du temps devenaient leurs domestiques. L'étrangère, la mère du docteur, l'avait dressé pour devenir un bon maître d'hôtel.
Rat faisait partie de mon univers. J'avais de la tendresse pour lui. Mais je ne voulais pas être toujours accroupie comme il l'était. Quelque chose me disait que mon ancêtre Armand avait connu cette même position humiliante. Lorsque Rat, avant de disparaître, m'a dit
« Souviens-toi, le nègre, l'homme, n'est jamais servile comme un vieux chien. »
J'ai pensé aux luttes de mon ancêtre pour me se libérer de la servitude.
Un soir à table,
on m'avait resservi une part abondante de gratin d'aubergine que j'avais avalé avec gourmandise. Puis j'avais posé ma tête sur mes bras pour dormir. Papa m'a taquiné. « Tu réfléchis ?»« Oui, papa chéri, ai-je répondu dans un demi-sommeil. Je réfléchis. » Rat était notre esclave. Nous étions les colons. Rat aurait-il pu un jour faire autre chose que cirer notre plancher ?
Un grand silence était tombé comme une chape de plomb.
Les gens de ma famille ont-ils oublié toutes les barbaries subies par leurs ancêtres et qu'ils font subir à leur tour à ceux qui les servent ?
En fin d'après-midi, comme mon jumeau se manifestait avec insistance, je m'étais écartée des autres enfants. J'avais besoin de solitude. Dans des maisons où il y a tant de monde, où trouver la solitude sinon dans les toilettes? À peine étais-je installée sur la lunette que mon jumeau a lancé à plein volume le clairon suivi d'une chanson populaire.
Aristide tombe dans le pétrin, babli plein de farine, belle brune pédorée bonbon, Soria pral mettre l'île en fou.
Aristide est tombé dans le pétrin, il a la barbe pleine de farine, belle brune toute parée d'or, Soya l'enfournera.
C'était pour mon jumeau sa manière d'introduire à nouveau le général Joseph Armand, mon bisaïeul. Cette fois-là, j'étais un peu moins intimidée et je lui ai tout de suite demandé « Dis-moi, tu as lutté contre les Français pour l'indépendance d'Haïti ?»
J'ai rejoint les troupes révolutionnaires du Sud en 1802, lorsque le général Leclerc, le beau-frère de Bonaparte, avait déporté Toussaint au fort de Joux. J'ai gagné mon titre de général tout comme nos héros, Dessalines, Pétion et Christophe. En 1804, j'ai célébré notre indépendance depuis l'écaille. Nous sommes une race de vaillants hommes. N'oublie jamais que mon père, Armand des Platons, a pris la tête de l'insurrection des esclaves du sud de Saint-Domingue. D'ailleurs, dans une lettre adressée à son fils, son maître Béraud a décrit sa surprise de voir que son nègre, Armand, après 25 ans de service, s'était rebellé au moment où il pensait lui accorder la liberté.
Lorsque je suis sortie des toilettes, je savais tout sur la lettre. Alors j'ai couru dans le jardin, j'ai ramassé une gousse de flamboyant et j'ai ferraillé contre les ennemis de ma patrie en hurlant, comme le faisaient les troupes de Toussaint l'ouverture.
Grenadier, à l'assaut! Sakimori zafé ayo, non point maman, non point pape. Sakimori zafé ayo.
Grenadier, à l'assaut, au diable la mort, ni mère, ni père, au diable la mort. Je voyais clair. Mon premier ancêtre africain était celui qui sans cesse me traversait l'esprit, poursuivi et emprisonné dans un filet. C'était celui que son maître baptiserait et nommerait Armand. Dans l'intimité de nos confidences, je disais à mon jumeau, « Quand Armand des Platons me chevauche, je ne sais ni parler, ni lire, ni écrire le français. Je deviens un vrai nègre insurgé qui mène sa troupe au combat en criant très fort en créole. « À l'assaut, tuons les Blancs !» Quand c'est le tour de Joseph Armand, je deviens stratège, ami et ennemi des Français, maniant aisément les deux langues. Peut-être on peut faire une petite parenthèse pour expliquer qui était Toussaint l'Ouverture. C'était un héros légendaire de la Révolution haïtienne qui a été capturé par les Français et qui est mort dans le Jura juste avant l'indépendance de Haïti en 1804.
Mais avant d'être un ennemi des Français, il avait été formé par l'armée française. Et c'est justement toute l'ambiguïté de ce que raconte Mimi tout le temps dans son livre. Ça a d'abord été un allié de la Révolution française, c'est Napoléon qui, après, quand il a rétabli l'esclavage, l'a fait déporter. Parce que justement, il avait trop acquis auprès de l'intelligentsia et de l'armée blanche des Français. Et cette part de francitude est restée très, très fortement chez Mimi, qui justement était partagée entre ce que ses parents lui disaient devoir à l'éducation française, et donc en commençant par l'armée, et la Révolution française qui a fondé quand même ce qui était la première république noire du monde. Il n'y avait pas eu avant. Et ça a été la double appartenance et le déchirement de Mimi. C'est que cet apprentissage de la liberté a été donné par les principes de la Révolution française. Même si après, Napoléon s'est empressé justement de déporter Toussaint Louverture, qui est un héros, mais pas seulement de légende, c'est un héros, tout ce qu'il y a de réel, et de le faire mourir de froid dans le Jura. Donc ça, Mimi était très, 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 très sensible à ce double aspect de son appartenance intellectuelle, je veux dire, et politique.
Vous vous êtes rencontrés comment, Mimi et vous, Anne ?
Parce que moi aussi, je suis métisse, pas du tout de la même façon que Mimi. Moi, je suis métisse du judaïsme ukrainien et du Poitou français. C'est une espèce assez rare, mais j'ai quand même, et ça, Mimi l'a compris tout de suite, parce qu'elle a vu nos spectacles. D'ailleurs, la légende qu'elle raconte au début, nous la racontons dans un de nos spectacles. Ce qui est évident, le point commun, encore une fois, ça fait 40 ans que je connaissais Mimi, le point de rencontre a été le métissage. Et sans la volonté de ne jamais être binaire, de savoir reconnaître ce qu'on doit, et en particulier dans mon cas et par toute mon éducation, si je suis une enfant d'immigrée, d'un côté, c'était parce que pour mon père, il fallait rejoindre la patrie des droits de l'homme. Hein? Et je sais que chez Mimi et dans sa culture française, et on voit bien dans ce qu'elle fait dire à ses parents, à ses grands-parents, il y a eu du métissage très tôt dans la famille de Mimi, bien plus tôt que dans la mienne. C'est les acquis de l'humanisme, de la Révolution française, des droits de l'homme qui sont à l'œuvre. Mais que une partie, alors c'est là qu'il y a encore une dichotomie chez Mimi, une partie, la famille Borneau, qui s'oppose très fortement à la famille Armand, a acquis plus vite, parce qu'ils n'ont jamais été esclaves du côté des Borneau, alors que du côté Armand, donc du côté paternel, il y avait eu la lutte pour la libération directe. L'autre famille, non. Et voilà, bon, je peux dire que la rencontre avec Mimi a été aussi une rencontre esthétique. On a toujours, Laurent Berman et moi-même, qui n'est pas là aujourd'hui, voulu allier texte, musique et image, et c'était la même préoccupation esthétique chez Mimi, c'est-à-dire de formellement aussi, de métisser les genres. Voilà, c'est ça notre rencontre.
Et moi, ma rencontre avec Mimi, alors c'était dans un atelier de la cartoucherie à Paris, un atelier de théâtre, le Chaudron. Ça fait 50 ans, je crois. Non.
40.
Et j'ai été impressionnée par sa voix, comme je te disais tout à l'heure.
Une voix grave.
Une voix grave et belle, profonde.
Bah, Anne, vous l'avez, cette voix aussi.
Oui, mais moi, c'est peut-être parce que je fume.
Ah.
Mais elle aussi, elle fumait, remarque.
Et on habitait dans le même arrondissement à Paris. Et donc, j'ai assisté à plusieurs fêtes, à son mariage. J'ai fait partie du bureau de son association. Et puis, j'avais écrit son portrait pour la revue Politis, une série sur les doubles cultures. Donc, elle m'a raconté sa vie. Et donc, quand elle m'a envoyé le manuscrit, j'ai discuté un petit peu avec elle au téléphone. J'étais déjà à Die. Et voilà, et quand je me suis retrouvée avec le manuscrit, j'ai essayé de savoir par sa famille ce que je pouvais en faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de l'existence de la vieille grille, de Anne et Laurent à la vieille grille. Et voilà, donc c'est une histoire d'amitié et d'admiration aussi. Et je voudrais dire, tout à l'heure, on parlait de la lignée Armand, la lignée Borneau. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'elle disait souvent que son père lui disait « Il faut porter un masque, ma fille. » Et elle, toute sa vie, elle a dit « Bas les masques, bas les masques. » C'était un peu le sens de sa lutte. Elle voulait que tout le monde retire le masque et soit authentique.
Qu'est-ce qu'un masque, d'ailleurs ?
Pour elle, c'était un masque de blanc. C'est-à-dire qu'elle avait une part blanche qu'elle revendiquait, et une part noire qu'elle revendiquait, et une part métisse qu'elle revendiquait, et une part sémite qu'elle revendiquait. Elle voulait avoir toutes ses parts, et pas seulement jouer à la blanche, la française, qui devait avoir une culture française. En arrivant d'Haïti, on lui disait « Ah, tu as lu Baudelaire ?» Et elle faisait semblant de savoir, mais elle ne savait pas. Et elle jouait à la française qu'elle aurait dû être en étant éduquée toute sa vie en France, alors qu'elle avait passé une partie de sa vie en Haïti à danser et à chanter dans une culture orale tout à fait différente.
Et d'ailleurs, est-ce que l'une d'entre vous est allée à Haïti ?
Non.
Non.
Non, d'accord. C'était pour savoir si vous aviez aussi peut-être ressenti cette existence qu'elle aurait pu avoir en y étant.
Par contre, on peut peut-être...
Ethniquement, par exemple, et puis...
Je suis sûre, en tout cas, que si Mimi avait survécu, je serais partie avec elle là-bas. Et parce que justement, elle voulait faire connaître aussi nos propres spectacles à Haïti, parce qu'elle était dans l'échange. C'est-à-dire qu'elle attendait aussi beaucoup qu'on lui donne. Elle n'était pas seulement dans le don, elle recevait. Et si elle avait vécu, on serait probablement parti là-bas, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, parce qu'elle avait, enfin, elle était assez en demande de ma présence quand elle jouait le Code Noir en particulier, comme en direction d'acteur. Et je pense que si elle avait survécu, parce que j'ai horreur du tourisme, donc je ne vais jamais nulle part à l'étranger si ce n'est pas pour y travailler. Si Mimi avait survécu, je suis sûre que j'aurais connu Haïti.
Mais la question que tu poses, peut-être que Pascal peut y répondre, car Pascal est réunionnaise, et je trouve très joli qu'elle puisse se retrouver dans ce livre et y trouver les outils de sa propre libération.
Eh bien, Pascal, justement, est-ce que tu peux nous parler ? Est-ce que tu t'es retrouvée justement dans les écrits de Mimi ?
Oui, beaucoup. En fait, j'ai l'impression que Mimi, elle a écrit ma propre histoire. Et je la connais qu'à travers son livre. Et je ne connais rien de l'histoire de Haïti. Et je ne connais rien de mon histoire à moi, de La Réunion. Mais par contre, dans cette notion de masque, je me retrouve beaucoup. Et je retrouve beaucoup ce qui habite aussi les Réunionnais. C'est-à-dire que... une négation de la culture, de notre métissage, de nos métissages, négation de toute la richesse de l'île, et aussi la mise en avant, mais de façon exacerbée, de tout ce qui vient de France.
Qu'est-ce qui vous oblige à vous porter un masque, justement ?
Moi, c'est dans la famille. Où en fait très tôt mes parents m'ont demandé d'être la petite fille sage qui va répondre qui va en fait permettre à mes parents d'avoir cette ascension sociale, comme si eux ils reniaient leurs propres origines. Mes grands-parents des deux côtés sont agriculteurs, donc issus de la terre, issus de La Réunion. Après je sais pas quelle est leur motivation propre, mais pour beaucoup c'est de pouvoir accéder à la France. Parce qu'à La Réunion, on met la France en premier. C'est quand même un département français d'outre-mer, mais français, au même titre que la Drôme ou un autre département métropolitain.
D'ailleurs, tes parents t'interdisaient de parler créole, de même que Mimi, à l'école, n'avait pas le droit de parler créole.
Oui, ça c'est vrai.
Et donc, le créole que tu parles, tu l'as reçu de qui ?
Je l'ai reçu de la famille, parce que même si moi j'avais pas le droit de parler créole dans la famille, et puis surtout à l'extérieur quand mes parents recevaient ou étaient invités, mais mes grands-parents, mes cousins, enfin toute la famille parle créole. Donc de toute façon j'étais baignée dedans, mais j'entendais davantage que ce que je ne parlais. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'accent, je n'ai plus d'accent, et à part rencontrer maintenant des créoles, où naturellement il va y avoir quelques mots qui vont ressortir, mais pour moi ça reste en fait du basique, quoi.
Pour l'anecdote, je peux dire que Pascal a eu les cours d'un Diwa qui a vécu plusieurs années en Haïti et qui lui a appris à prononcer le créole haïtien. Mais parce que c'est le créole réunionnais que tu parles.
Oui, mais en même temps les sonorités sont proches, donc la façon d'écrire est proche aussi, même si à La Réunion, il n'y a pas encore du créole, enfin, pas encore complètement écrit. Mais de toute façon, c'est une prononciation phonétique.
Oui, c'est tout à fait une langue orale, en quelque sorte. Ouais. Hein. Il y a rarement des écrits, c'est ça, en créole?
C'est encore en pourparler, voilà.
Et maintenant, on peut vous lire un extrait qui concerne le métissage, justement.
Oui, et puis qui, dans la forme, et c'est important aussi, ça rejoint la Mimi conteuse, justement, ça revient plusieurs fois dans le livre, prend la forme d'incantatoire, hein, des prières, où elle lance la parole comme ça, de façon incantatoire. Je m'étais réfugiée au fond du jardin. J'avais chapardé une splendide dans le porte-cigarette de mon père. Je fumais et je rêvassais en toute complicité avec mon jumeau lorsqu'un déchirant sanglot de violoncelle fit apparaître Louise. Ma vieille maman était morte en 1921 et j'étais livrée aux mains d'un personnel hostile. Je vivais l'enfer dans notre maison de la rue des Miracles. Ce n'est pas la guerre en Europe qui m'a effrayée. C'est surtout pour soulager mon entourage que j'ai cessé de vivre. Tâche de comprendre mon message, ma petite. Tu ne souffres pas, comme moi, d'une maladie incurable, la lèpre, mais d'un trop-plein de savoir. Arrête de t'alarmer et d'alarmer son entourage. Accouche de toi-même.
Elle s'est évanouie dans la verdure du jardin et les sanglots du violoncelle se sont tus. Et pour la première fois, mon jumeau m'a inspiré à un poème chanté sur ma tante, ma grand-tante, mes ancêtres et sur moi.
Une femme de couleur blanche métissée de noir.
Une femme noire métissée de blanc.
Une blanche métissée de sémite.
Arrière-grand-mère, grand-mère, grand-tante, tante, mal armée pour lutter.
L'une par la lèpre rongée.
L'autre trop gâtée, les autres trop malmenées.
Ces fortes femmes rebondissent et s'imposent.
Face féminine cachée.
Métaphore d'hommes virils qui luttèrent pour leur humanité et, en fin de jeu, furent piégés par leur ardeur à devenir,
comme leurs anciens maîtres, des blancs.
Ce poème, qui s'est imposé à moi et qui me dépassait, m'a troublé. Une force de vie perçait en moi avec fulgurance à travers l'épaisse couche de lard, de doute et d'échec. Je me suis surprise à confier à mon jumeau que je n'en voulais plus tellement à l'ange de m'avoir imposé cette mémoire. Je lui en savais gré, tout en espérant, quand même, sa venue.
Ce sont des lectures qui auront lieu dans la librairie Mosaïque, aux heures du marché, le 20 août.
À 11h, le 20 août.
Mercredi 20 août. De quoi s'est nourrie la culture de Mimi Barthélémy?
Essentiellement d'Haïti.
Je parle de culture littéraire.
Elle a fait de l'ethnologie, hein. Elle a fait des études d'ethnologie. Son premier mari était aussi un ethnologue. Elle a poussé assez loin, puis jusqu'à s'intéresser elle-même à ses propres origines. C'est comme ça qu'elle a fait aussi un travail de collectage, de contes, un travail de musicienne, un travail de sociologue. Elle avait toute cette base-là derrière elle. Mais qu'elle a voulu... c'était avant tout, elle s'est voulu artiste. Donc elle n'a pas eu de mal à recomposer tout ça à travers des personnages comme celui dont elle parle, Rat, et à propos desquels elle lance à la figure de ses parents qu'il la maltraite. Enfin, le masque est aussi social, hein, dans tout ça, et Mimi insiste très très fortement. Mais sa culture littéraire vient plutôt de recherches, oui, genre ethnologiques, ethnographiques, sociologiques, etc. Liées à la culture populaire qu'elle pouvait avoir par tous ses cousins, toutes ses cousines, tous les serviteurs qui jouent un rôle très important dans son roman et auquel elle veut rendre hommage en quittant la forme du conte traditionnel où elle ne pouvait pas mettre tout ça à la fois pour aborder ce qui n'est pas vraiment une autobiographie, c'est une fiction, mais où il y a une énorme part autobiographique, bien sûr.
Oui, c'était un peu la question, autobiographie ou romancée?
Elle tenait au mot roman. Il faut dire d'ailleurs que le titre, c'est pas elle qui l'a trouvé, c'est nous, avec la famille de Mimi. Mimi, elle se contentait de l'obèse, on n'a pas trouvé ça très très joli. J'ai eu le temps de lui dire qu'on garderait pas ça, elle était d'accord. Et puis on a pris les trois personnages principaux, parce que la vraie fiction, c'est justement dans le personnage de l'obèse, cette femme qui grossit, qui ça est sortie de son imagination et à qui elle fait porter toute la mémoire familiale. Mais la mémoire familiale qui fait enfler cette femme, elle est bien réelle et ancrée dans l'histoire. Enfin, je veux dire, tout est vérifiable. Il y a d'ailleurs deux arbres généalogiques à la fin qui sont... Tout est vérifiable et vrai. Mais le personnage de l'obèse, c'est pour ça qu'elle tenait à la mention de fiction et de roman.
Et en même temps, c'est ce personnage qui relie tous les autres. Et je pense que Mimi a voulu lancer un pavé dans la mare de Haïti en écrivant ce livre, simplement en disant la vérité que tout le monde connaît, mais qui fait des traits d'union entre ces deux familles et qui met l'accent sur des antagonismes et des unions aussi.
Ce que j'ai bien aimé, c'est ce personnage-là, le petit oiseau d'un rêve qu'elle fait. Qui
Doumingue.
Voilà, oui. qui grossit en absorbant tout ce qu'on lui donne. Ça serait possible de le lire, ce petit passage, justement?
Oui. Et c'est effectivement intéressant parce que c'est l'histoire du grossissement. Et ça, ça vient d'un conte traditionnel qui, à la fois, qu'elle a entendu enfant, qui lui a fait à la fois très peur et auquel elle s'est complètement identifiée. J'allais sur mes 5 ans lorsqu'un soir, au clair de lune, Jésoula la Bonne avait tiré, en créole, un conte qui m'avait fait très peur. Il était une fois la petite fillette qui se promenait toute seule sur le chemin de la forêt. Un petit oiseau sautillait innocemment devant elle. Elle l'attrape et ramène à la maison l'oiseau qui roucoulait joliment.
« Doumingue !»
Fillette lui chante une petite mélodie.
« Je n'ai rien à donner à manger à mon oiseau qui dit Doumingue !»
Une fois à la maison, l'oiseau fixe la mère de Fillette droit dans les yeux, ouvre grand le bec et réclame à manger.
« Doumingue ! Doumingue !»«
Drôle d'oiseau !» dit la mère. « Fillette, cours chercher un sac de riz et donne-le-lui. » L'oiseau avale le sac de 10 kilos de riz que lui offre Fillette et devient gros comme un coq. Il crie, tout en tournoyant à l'intérieur de la maison.
« Doumingue, j'ai grand faim !»
Et Fillette se contente de chanter sa petite mélodie.
« Je n'ai rien à donner à manger à mon oiseau qui dit Doumingue. »
« Fillette, supplie la mère, cours chercher 7 sacs de mil et donne-les à cet oiseau maudit. » L'oiseau engloutit les 7 sacs de 10 kilos de mil que Fillette traîne devant lui et devient plus gros que l'aigle mal fini. Il braille auprès du père qui le menace de sa machette. « Doumingue, vous êtes mes serviteurs, défense de sortir d'ici. » Et Fillette, elle, se contente de chanter sa petite mélodie.
« Je n'ai rien à donner à manger à mon oiseau qui dit Doumingue. »
L'oiseau dévore les 7 sacs de 10 kilos de maïs que Fillette lui présente et devient gros comme un taureau sauvage qui terrorise la famille tout entière. En pointant sa fille du doigt, la mère crie au monstrueux volatile « Avale-la ! C'est elle qui t'a ramassé sur le chemin et qui t'a ramené à la maison. Elle est à toi !» L'oiseau Doumingue fixe la mère, droit dans les yeux, ouvre grand le bec et l'avale. Il fixe le père, droit dans les yeux, et l'avale mêmement.
« Rends-moi mon père ! Rends-moi ma mère !» s'écrie Fillette.
« Tu es une bonne petite fille, je te les rendrai. Mais promets-moi de me ramener là où tu m'as trouvée et ne te charge jamais plus de ce que tu ignores. »
Et c'est ainsi que Doumingue a craché le père. Il a craché la mère et est redevenu un tout petit oiseau que Fillette s'est dépêchée de ramener sur le chemin de la forêt.
Ce chemin de forêt, c'est quoi ?
C'est l'initiation, on va dire. Il est évident que par ailleurs et parallèlement à tout son cheminement universitaire traditionnel, Mimi n'était pas sans connaissance du vaudou. Elle en parle d'ailleurs dans le roman, la jeune obèse s'initie au vaudou, et puis elle parle aussi souvent de cette figure centrale dans le vaudou qui est le potomitan, à laquelle elle s'identifie. C'est très fréquent, je veux dire, chemin, c'est le double chemin de l'université à la française et du vaudou.
Elle parle des femmes qui doivent être fortes ou libres, comme le potomitan, qui est le poteau central de la tente où ont lieu les cérémonies du vaudou.
Oui, c'est ça le chemin de la forêt.
Merci. Et toi, Pascal, qu'est-ce qui t'a ému chez Mimi Barthélémy ? Tu n'as pas connu cette personne proprement dite. Et toi, justement, Linette, tu l'as rencontrée dans quelles conditions ? Tu m'avais déjà dit tout à l'heure, je crois, ou non ?
Oui, je te l'ai dit d'abord dans un spectacle et ensuite comme voisine et ensuite comme amie.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait de commun entre vous et elle ? Qu'est-ce qui vous a fait vous rapprocher ? Est-ce que vous avez trouvé une espèce de chemin aussi par elle ? Ou c'était vos chemins qui se croisaient ?
Non, c'était plus que se croiser. Non. Enfin, en tout cas, pour moi, je crois l'avoir déjà dit, Mimi et moi, on a vraiment cheminé parallèlement. Moi, j'ai appris beaucoup d'elle au plan particulier musical, comment elle savait lier de façon absolument harmonieuse et immédiate le texte parlé, texte chanté, le passage de la musique à la parole. Tout ça, ça c'était... Non, c'est beaucoup entre-accompagné.
Est-ce qu'il est prévu un spectacle de ce livre ?
Je ne sais pas encore. En tout cas, ce que j'ai remarqué, là, c'est la 3e, 4e fois qu'on va en faire des lectures. Les deux autres fois, je les ai faites avec un musicien haïtien. La dernière fois, c'était avec Serge Tamas, qui lui-même avait beaucoup travaillé avec Mimi, qui a très envie, oui, qu'on fasse quelque chose. Moi, j'ai été tellement traumatisée par la brutalité de sa disparition en pleine répétition du Code Noir, que d'abord, le Code Noir, je ne veux pas le reprendre sans elle, ça c'est impossible. Si d'autres comédiens veulent reprendre, ce serait bien, parce que c'est un texte très important que Mimi a écrit. Mais en tout cas, moi, j'y serais pas. Mais adapter le livre, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Il faut y penser. Je suis encore un petit peu trop dans le travail de deuil, on va dire. Écoutez, en tout cas, on a réussi. Linette et moi, une chose importante, le livre est sorti le jour même du premier anniversaire de la mort de Mimi. Et donc, voilà, c'est une grosse partie du travail de deuil qui a été ainsi accompli, puisqu'on... On a tenu la promesse qu'on avait faite à Mimi, que son livre serait fini d'être écrit et édité. C'est une première chose. Maintenant, retravailler dessus sous une forme théâtrale, ça c'est une autre affaire. Il faut encore un peu de temps, je crois.
Et il y aura une lecture en créole aussi de ces textes à la librairie Mosaïque, ou pas ?
Oui, il y aura
les petits passages. Qui sera là. Voilà. Les petits passages qui sont en créole dans le texte. Donc en fait, je les lirai en créole.
Et il y aura de la musique, un petit peu de musique.
Avec un musicien, comment ça se passera ?
Ce sera plutôt une petite ponctuation musicienne, parce qu'on n'a pas de musicien haïtien sous la main dans le diwa.
Mais ça sera comme des virgules musicales,
oui,
qui vont accompagner le texte.
Mimi était souvent accompagnée en musique par Amos Coulanges et parfois Serge Tamas, qui sont Amos et haïtien. C'est un guitariste classique. Alors c'est intéressant, c'est lui qui jouait dans le Code Noir, parce que justement c'est un guitariste d'origine classique. Il a un peu le même parcours que Mimi, à moitié dans la culture héritée de l'Europe et de la France et haïtienne, et qui savait bien évidemment jouer aussi et chanter de la musique haïtienne. Serge est guadeloupéen, Serge Tamas, il est guitariste aussi, ils sont tous les deux de brillants guitaristes. Mais Serge est aussi un très brillant percussionniste. C'est Serge qui m'a accompagné quand j'ai fait la lecture de Mimi, on a tout improvisé, et il connaît les chansons « Lisette quittait la plaine » que cite Mimi ou « Vaillant grenadier ». Mais je ne sais pas si elles sont dans ce CD-là. Elles sont peut-être... en tout cas, elles étaient chantées dans le Code Noir. Mais je ne sais pas s'il existe des enregistrements.
Et donc là, nous allons écouter un extrait qui s'appelle...
« L'homme qui n'avait pas de nom ».
Et puis on va peut-être parler aussi du livre... À la maison d'édition.
Je pense aussi en regardant sur le site de Mimi.
Oui, le site de Mimi, on doit trouver.
Il suffit de regarder Mimi Barthélémy.
D'accord.
Il y a des contacts et des liens.
Est-ce qu'il y a l'adresse du site internet ?
mimibarthélémy.com.
Qui s'en occupe de ce site ?
Je pense que c'est toujours celle qui était son administratrice, qui s'appelle Séverine Heldinger. En tout cas, son nom est toujours sur le site. Je crois que c'est elle qui continue à assurer la continuité. Du site.
Le livre, on va y revenir, c'est oui. Aux quelles éditions ?
Alors le livre, c'est aux éditions de l'Attrape Science, une maison d'édition que justement j'ai fondée avec mon petit camarade, on va dire, Laurent Berman et deux autres associés, dans le cadre de du théâtre qu'on dirige à Paris, qui s'appelle le Théâtre de la Vieille Grille. Alors les éditions de l'Attrape Science, c'est la réunion donc, de Laurent Berman et de moi-même qui dirigeons une compagnie de théâtre, avec un imprimeur et un maquettiste. C'est-à-dire qu'on s'est entre-choisi entre gens de métier du livre, parce que nous, comme gens de théâtre, on n'était pas assez costauds pour monter une maison d'édition. Mais, et où, donc une maison d'édition qui se donne avant tout pour but d'éditer tout ce qui se joue dans notre théâtre. C'est-à-dire nos propres pièces qu'on a adaptées en livres, CD et DVD, des groupes de musique qui sont passés, comme Morenica, qui est passé il y a très peu de temps dans le diwa.
À Barnave.
Oui, à Barnave, dont nous avons édité un CD, et d'autres troupes de théâtre. Et c'est pour ça que le livre de Mimi Barthélémy s'inscrivait tout naturellement dans notre projet éditorial. Et donc les éditions de la Trappe Science ont aussi un site, attrapesciencetoutattaché.fr, tout comme le théâtre de la Vieille Grille, c'est vieillegrilletoutattaché.fr, et les liens se font très facilement l'un entre l'autre. Et on peut retrouver le site de Mimi par le lien de notre maison d'édition.
On peut lire encore un extrait. C'est une chanson qu'a composée un des ancêtres de Mimi.
L'ancêtre, alors c'est du côté Borneau.
Borneau.
L'arrière-grand-père de Mimi avait une femme qui était. Alors c'était la partie, on va dire, BCBG de la famille, hein, pour faire vite et un petit peu anachronique. Et donc sa femme, Lélia, à cet arrière-grand-père, se manifeste aussi auprès de cette obèse, de cette jeune femme devenue de plus en plus grosse, et lui rappelle qu'elle a aussi des ancêtres du côté Borneau.
Lélia s'est penchée vers moi en chantonnant, d'abord en créole, puis en français, « Lisette quittait la plaine », que mon jumeau avait lancé sur l'air de « Que ne suis-je la fougère ?»«
Lisette quittait la plaine, mon père dit bonheur à moi. Guy à moi semblait fontaine, dipi mon pas mirétoué. Moins tendre comme oiseau dans le cage, quand il fait aller mourir fin. »
Lisette, tu fuis la plaine, mon bonheur s'est envolé. Mes pleurs, en double fontaine, sous tes pas ont coulé. Je suis comme l'oiseau en cage que l'on fait mourir de faim. Puis, elle m'a glissé à l'oreille.
Je descends de Marthe Jérôme Duvivier de la Mahautière, l'auteur de cette chansonnette qui date du début du XVIIIe siècle. Est-ce pour sa négresse qu'il l'a composée? Leur fille naturelle, Cécile, était une mulâtresse qui épousa Bernard Borgella de Pincier, maire de Port-au-Prince en 1792 et rédacteur de la Constitution de 1801 de Toussaint l'Ouverture. Voilà, et là-dessus, Mimi, dans son roman, donc, s'étend sur toute cette généalogie de côté français, donc, avec des mariages mixtes, mais aussi où l'on épouse les mulâtresses que l'on met enceinte. Et elle y insiste beaucoup aussi. Quant à la chanson, Lisette quittait la plaine, ça, Mimi la chantait, mais je ne sais pas si ça a été enregistré magnifiquement bien dans la pièce Le Code Noir. Justement, en se référant, parce qu'elle le dit, que mon jumeau avait lancé sur l'air de « Que ne suis-je la fougère ?» Ce sont des chansons du XVIIIe siècle français. Et d'ailleurs, Rousseau l'a adapté après. Oui, Rousseau, et ça c'est intéressant aussi, a mis en musique certains airs, enfin a mis plutôt, a remis en musique des airs d'origine française, des menuets de musique occidentale savante, auxquels ont été adaptées des paroles créoles, et qui se sont tant bien que mal agglomérées ensemble. Et ça, c'est une des chansons que Mimi adorait chanter. Parce que justement, il y avait en elle-même la double appartenance de culture savante et de culture populaire, d'origine française et d'origine créole, et que c'est ça même le créole, en fait, ce mélange-là, à ses yeux de Mimi en tout cas.
Nous rappelons encore peut-être cette lecture
le mercredi 20 août à 11h à la librairie Mosaïque. Voilà. Avec donc Anne Quesemant, Pascal Etève, Laurent Berman, Yves Bergeret et moi-même, Linette.
Et pour la musique, donc ça sera une petite...
Une petite ponctuation, ce sera Laurent Berman, mais qui n'est pas du tout au fait de la musique créole. Il veut bien nous aider parce qu'il est musicien, mais ce ne sera pas de la musique créole haïtienne.
Eh bien, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci.
Pascal et Lisette.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Interview.
1-terre-view.
Okay. The bird.